C'est parti.
Sur Moorcock et Elric, qui c'est qui a eu l'idée en premier?
C'est Moorcock.
C'est Moorcock. Il voulait en fait publier un Elric en français parce que, pour des raisons sentimentales, parce qu'il aime la France, mais c'est pas des conneries. Et que Elric a toujours été bien reçu et traité en France, jamais de rupture, etc. Et il habite maintenant la moitié du temps en France. Et il est hyper attaché à la France, il a plein de copains français, etc. Et donc il s'est dit, comme il n'est pas, comme c'est pas quelqu'un qui est crispé sur ses personnages, genre, non, c'est moi, non, ça doit être dans tel. Enfin, c'est assez libre, quoi. Et du coup, il s'est dit, voilà, faisons un Elric d'abord en français. Il n'a pas de. Il n'écrit pas du tout français, il ne parle pas français, etc. Donc il lui fallait un comparse. Et en fait, c'est un copain commun qui nous a mis en relation.
Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans ce projet-là?
Déjà, on te dit Moorcock. Enfin, moi, j'aurais pu ne pas être fan du tout d'Elric et détester, mais c'est pas le cas. J'étais un lecteur de d'Elric vers 15-16 ans où je me suis tout bouffé trois fois et tout ça. Donc, et là. La perspective de bosser avec lui déjà me suffisait sans le connaître. Et après, quand tu le connais, tu vois que c'est un bonhomme super gentil, plein d'humour, super cultivé, super humble, enfin qui a plein de trucs à t'apprendre au-delà de juste l'écriture d'un bouquin, etc. Donc il y a aussi un truc d'amitié, quoi. Parce qu'en fait, le temps que le projet qu'on rentre dans le vif du sujet en termes d'écriture, ça faisait deux, trois ans qu'on s'était présenté parce qu'il y a eu pas mal de temps pour mettre les contrats en place, etc. Puis on s'est pas pressé, quoi. Et donc il y a eu toute cette relation qui s'est développée avant qu'on commence à bosser. Quand on a commencé à bosser, on a su que ça irait, qu'il n'y aurait pas de soucis parce qu'on était sur la même longueur d'onde.
Alors justement, comment est-ce que vous avez bossé? T'as apporté le scénario, il t'a donné des idées, ou c'est à partir de ces idées? Enfin, comment vous avez fait?
Au départ, il y a une novella qui a été publiée dans une revue américaine dont j'ai oublié le nom.
Weird Tales.
Voilà. Donc lui, il a publié cette novella il y a 4-5 ans, mais avec déjà dans l'idée d'en faire quelque chose par la suite. Enfin, c'était pas juste un truc comme ça. Il a pas pris une novella dans ses archives en disant tiens, on va faire ça. Il s'est dit je vais faire ça, puis ça pourrait grandir après. Donc assez naturellement, on s'est posé là-dessus. Après, ensemble. On a étendu cette histoire-là, on a rajouté plein de trucs avant, après, pendant, voilà, on a complètement gonflé le truc. Et après ce boulot de scénarisation en commun, mais avec un plan comme vraiment développé, enfin chapitre par chapitre et tout, après moi j'ai écrit le texte en français. Et chaque fois que j'étais bloqué, que j'avais des questions, il était convenu que je lui demande, y compris pour des noms de personnages, y compris pour des détails, voilà.
Comment t'as fait? T'as relu tout Elric?
J'ai relu tout ce qu'il y avait avant, puisque ça se passe à un moment assez précis dans la saga. J'ai pas tout relu, j'avais l'omnibus, j'ai pas tout relu, mais j'ai lu le début, la fin, enfin j'ai lu les principaux trucs au niveau de la psychologie du personnage pour me remettre un peu dans le bain. Puis au niveau du style, en fait, j'ai commencé à traduire globalement la novella en français pour me réapproprier un peu, pour rentrer dans son mode d'écriture, voilà.
Et le personnage, en fait, c'est un Elric relativement classique. T'avais envie de le moderniser, ou au contraire, on a l'impression que vous êtes vraiment resté proche du personnage original?
Non, l'idée c'était vraiment de faire un truc vintage avec les qualités et les défauts que ça a, parce que justement, quand il y a eu par exemple le recueil de nouvelles au fleuve où tout le monde s'empare du truc, là c'est un autre exercice. C'est quoi pour toi, Elric, en termes d'archétype? Qu'est-ce qui te marque là-dedans? Qu'est-ce que tu veux en faire? Là, c'est pas ça. C'est une aventure qui est une aventure entre guillemets officielle dans le déroulé des aventures d'Elric. Donc, et comme ça se passe dans un moment sur la timeline, il y a pas de raison de faire un truc différent. On est vraiment censé rester. Après, lui, Moorcock écrit plus. Enfin, même en anglais, je voyais, il écrit plus de la même façon qu'il y a 40 ans. Moi, la façon dont sont écrites les histoires d'Elric de façon générale, c'est pas comme ça que j'écris moi, mais je je me suis dit, je vais rester le plus fidèle possible à la façon dont c'est écrit à la base, en essayant quand même de gommer les scories qui peuvent être un peu irritantes dans l'écriture, c'est-à-dire pas trop surcharger le style, etc. Mais je me suis quand même remis dans l'idée que voilà, c'est une histoire d'Éric qui va être, qui est pas censée déparier par rapport aux autres histoires qui ont été écrites. L'idée est pas subitement de faire un truc moderne qui sort complètement du canon de base, quoi.
Et pour toi, auteur, c'était une expérience positive ou super contraignante et un peu difficile?
Ah non, il n'y a absolument aucune contrainte. D'ailleurs, c'est presque... Enfin, si, ça m'a presque posé problème dans la mesure où Moorcock est très très libre. C'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'il a une idée... Il pense pas que les personnages appartiennent à un auteur. Il a, bon, avec Jerry Cornelius, il a déjà expérimenté ce truc-là. Et là, il y a une confiance qui est presque écrasante. C'est-à-dire qu'on a. En plus, j'écris en français, il peut pas trop vérifier ce que je fais. Donc à un moment, tu te dis, mais. Tu peux être un peu complexé à un moment, comme j'ai été. Je me suis dit, mais en fait, ça veut dire qu'ils sont fous, etc. Et non, c'est. Comme c'est vraiment un ami qui s'appelle Jean-Luc Fromental qui lui a conseillé, qui a dit bosse avec Fabrice, etc. Voilà, il lui fait confiance et il se dit, puis là, il lui regardait un peu ce que je faisais. Il a vu que Bénédicte était ok, etc. Il s'est dit bon bah donc c'est le bon mec pour faire ce boulot-là et voilà. Mais il n'y a aucune contrainte. Et alors c'est une façon très presque juvénile de bosser parce que on faisait le scénario de façon super libre sur un canapé. Et vraiment très premier degré. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, et puis alors bah, là, les mecs ils pourraient se battre, et alors après, le mec il est tout nu dans la jungle, et après il y a un autre combat, et là on pourrait mettre un crocodile géant. Et, voilà. Donc il y a un côté, ce qui est l'essence en fait de ce que doit être la fantasy, et c'est pour ça que la plupart des gens, les auteurs français arrêtent d'en écrire au bout de quelques années, parce que tu perds en fait cette espèce de sens de l'enchantement complètement enfantin et de la naïveté. Et quand tu regardes les bouquins qui ont marché en fantasy française, par exemple, que ce soit Les Crépusculaires de Gaboury, que ce soit Pierre Grimberg, que ce soit La Moira de Lovenbrück, enfin les trucs qui sont vendus le plus, à chaque fois ils ont en commun, malgré les défauts éventuels qu'ils peuvent avoir, c'est les bouquins où les mecs ils sont dans leur truc, quoi. C'est-à-dire, ils trichent pas, quoi. Après, tu peux en penser ce que tu veux littérairement, mais. Et là, c'est cette idée-là, c'est de revenir. Voilà, on va raconter. C'est de l'aventure, quoi. En fait, c'est même plus. Pour moi, c'est. Même pas le côté fantasy, c'est de l'aventure. On va raconter une histoire avec des péripéties et voilà. Et c'est vrai que quand par ailleurs tu rentres dans une certaine sophistication, bah, dans ce que je peux faire, dans les trucs pour adultes, etc., où je vais pas mal me torturer sur les concepts et tout, là c'était un bain de jouvence par rapport à ça, quoi.
Et maintenant, ton regard par rapport au personnage, Elric, c'est un peu le tien?
Ça c'est pas... C'est compliqué comme question. Il y a toujours un... Non mais il y a toujours un respect, une réserve, et c'est pour ça que moi je lui demandais à chaque fois sur les noms, etc. Je voulais rien inventer parce que pour moi l'inventeur c'est lui. Donc en reprenant en retraduisant la novella, je suis vraiment rentré à l'intérieur du truc et après c'était les guider pratiquement. C'est-à-dire que je me dis voilà, j'écris pas vraiment une aventure d'Éric, moi Fabrice Collin, je me mets dans l'esprit de Moorcock qui écrit une aventure d'Elric, quoi. Et oui, il y a un côté un peu appropriation comme ça. Tu te dis, tu le fais vivre, mais en fait, il vit déjà. C'est-à-dire que, comme de toute façon, c'est des bouquins qui sont vachement basés sur la psychologie quand même de ce personnage-là, qui est vachement poussé, et que ça arrive à un moment précis avec une problématique précise par rapport à ses questionnements à lui. Sont en gros, je veux plus dépendre de cette épée, je veux me démerder tout seul. La psychologie, elle est là, c'est assez carré. Enfin, pour moi, ça se barrait pas en sucette parce que je savais ce qu'on racontait, quoi. Et à partir de là, après, je suis suffisamment une éponge stylistique pour me dire, je suis dans les clous et c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'était important cette impression quand même de justesse par rapport au personnage et par rapport au décor. Moorcock, lui, par rapport au jeune royaume, par exemple, c'est pareil, il est très très libre, tu vois. Tu lui dis, c'est comment la ville de machin, parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y a eu trois lignes qui ont été écrites dessus. Il dit, c'est ce que tu veux, quoi. Enfin, ce qui est assez désarçonnant, parce que t'es complètement à l'antipode des trucs de Tolkien où les gens, c'est non, c'est comme ça. Lui, encore une fois, c'est une forme de générosité de dire, voilà, moi, j'ai initié un truc, Mais lui, son credo à Moorcock, c'est le bouquin, le sens du bouquin, c'est vraiment le lecteur qui le fait. Donc il y a une interview comme ça où quelqu'un lui pose une question, je sais plus quoi, est-ce que l'Eric c'est la métaphore de machin, et il dit bah ouais, parce que tu le penses, tu vois, c'est, je peux pas te dire non, quoi. C'est...
Il donne vraiment son nom de...
ouais.
Bénédicte, sur l'aventure un peu éditoriale, qu'est-ce qui toi t'as intéressé en tant que directrice de collection de publier un Elric inédit?
Bah écoute, moi comme Fabrice, on est de la même génération, j'avais évidemment lu Elric, enfin pas évidemment, mais j'avais lu Elric aussi quand j'étais gamine, quand j'avais 14-15 ans. J'avais pas tout lu, mais j'avais lu en tout cas une bonne partie. Donc, et en plus, pour moi, c'était un cycle culte du catalogue chez Pocket. Donc, ça faisait très très longtemps qu'il était au catalogue. Et en arrivant chez Pocket, j'avais réédité tous les cycles, enfin tous les volumes manquants, on avait refait les couvertures, etc. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, très vite, j'ai rencontré Moorcock. Je crois que c'était aux Utopiales. Ouais, c'était aux Utopiales à Nantes. Et j'étais assez impressionnée de le rencontrer. Et j'ai vite vu que c'était un type... absolument charmant, très accessible, etc. Je lui avais apporté les nouveaux pockets avec les nouvelles couvertures pour lui demander son avis et tout. Bon, voilà. Et puis, quelques années après, entre-temps, on a appris à se connaître un peu plus. Il est venu s'installer en France. Voilà, donc on se voyait régulièrement, on s'entendait très bien, on est devenus amis avec lui et sa femme. Et puis un beau jour, il me dit, tout naturellement, déjeuner, je crois, il me dit, voilà, j'ai envie de faire un Elric en France, avec un écrivain français, t'es partante. Et j'ai dit, voilà, c'était d'un naturel et d'une simplicité. J'ai dit, oui, bien sûr, je suis rentrée au bureau, j'ai dit, voilà, on va faire un Elric au fleuve. Et ça me semblait logique, lui, ça lui semblait logique, puisque je publie la majorité de ses œuvres chez Pocket. Et pour moi, c'était logique aussi que ce soit au fleuve et puis j'avais très envie, je trouvais que c'était assez amusant comme après toutes ces années de refaire vivre le perso. Quand il m'a dit que c'était avec Fabrice Collin, bon bah j'ai tiqué forcément, mais non, je connaissais déjà pas mal, enfin je connaissais un peu Fabrice, on se connaissait pas encore tant que ça, mais en tout cas je connaissais ses œuvres et j'avais lu pas mal de ses bouquins, donc je m'inquiétais pas du tout sur le côté littéraire du projet. Et puis ensuite, on s'est vus tous les trois et on a discuté très simplement de ce qu'on allait faire. Voilà, après, le processus habituel de l'édition s'est mis en route, les contrats, les discussions, etc. Mais tout ça s'est fait quand même assez... vraiment assez... très simplement, quoi.
Ouais, c'est joli, ce qui est marrant, et c'est que ça coïncidait avec le moment où notre amitié à nous commençait, mais c'était pas à cause de ça, en fait. C'est plutôt bien tombé, quoi. Tu vois, c'est... Enfin...
Donc, c'était vraiment génial de pouvoir travailler ensemble, déjà avec Mike, parce que ça coule tout seul, avec Fabrice aussi. Donc, moi, finalement, j'avais plus grand chose à faire une fois que le contrat était signé, si ce n'est relancer les deux cocos pour leur dire j'ai besoin du texte à tel moment. Et une fois qu'on l'avait programmé. Et puis voilà. Et puis j'ai relu ensuite le texte que Fabrice m'envoyait. Moi, j'ai très peu touché au texte parce que de toute façon, je voulais surtout pas m'éloigner de la langue dans laquelle s'était mise Fabrice. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas relu Elric, donc en lisant les Buveurs d'âme, ça m'a projeté des années en arrière. Et je me suis dit wouh, mais ai-je encore 15 ans? Peut-être pas. Mais donc j'ai essayé de pas toucher à ce qui fait le charme de la langue de Mike et de Fabrice. Voilà. Et puis voilà.
Il y a une grosse campagne marketing avec plein de guillemets, mais il y a une soirée de lancement, il y a des communiqués de presse un peu partout. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous avez envie de toucher de nouveaux lecteurs? Est-ce que c'est un plaisir juste nostalgique de retoucher de vieux fans? Quelle est un peu l'idée?
Non, évidemment, je pense que ça peut toucher les vieux fans et que les lecteurs d'Elric seront sans doute au rendez-vous, j'espère, pour ce nouvel opus. Mais d'autant que l'omnibus d'Elric, quand il est sorti, a quand même très très bien marché. Donc je me dis qu'il y a encore les générations qui ont aimé Elric qui auront sans doute, par nostalgie et par plaisir, envie de le lire. Maintenant, j'espère qu'on arrivera à attirer des nouveaux lecteurs, parce que ça s'adresse aussi à un jeune lectorat. Donc Donc effectivement, avec ce qu'on fait comme, comme presse, comme, comme tu dis, comme lancement marketing, etc., ça va attirer d'autres, d'autres lecteurs, j'espère.
C'est marrant là, sur les... moi je regarde un peu les critiques, parce que par exemple, il y a eu des trucs qui ont été envoyés à des blogueurs, etc. Et donc la plupart des gens n'ont jamais lu en fait Moorcock. Et même de façon générationnelle, enfin c'est assez étonnant, mais souvent ils ont plus lu moi que Moorcock. Forcément, ils regardent les trucs qui sont sous la main. Et en fait, ils ont jamais lu, mais ils savent. Enfin, il y a toujours un truc de honte, genre putain, j'ai jamais lu Moorcock. Tu vois, des gens de 20-25 ans qui vont dire oh, putain, c'est la honte, parce qu'ils connaissent. Donc il y a quand même la notoriété du nom, enfin, pour peu que tu sois un tout petit peu dans la littérature de l'imaginaire. C'est un truc qui est dans un coin, tu vois, c'est comme moi, j'ai jamais lu Van Vogt ou je sais pas, mais tu sais que ça existe et tu peux pas l'ignorer. Et visiblement, les gens. Ça passe assez bien comme premier bouquin, comme introduction à l'univers d'Elric, et ça n'a pas l'air de poser énormément de problèmes.
Non,
aux gens.
Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que je l'ai fait lire à des gens qui ne lisent même pas de fantasy, notamment au Fleuve Noir, dans la maison, chez Univers Poche, et qui l'ont lu avec grand plaisir en lisant. Voilà, une aventure imaginaire et qui n'ont pas eu du tout ni d'a priori, qui ont pris plaisir que ce soit à l'écriture ou à l'histoire et qui sont rentrés dedans sans aucun problème. Et je me suis dit, bon, bah, après tout, on peut aussi toucher des gens qui ne connaissent pas forcément ni Elric ni même la fantasy. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On a...
Et par rapport à un roman classique, entre guillemets, que ce soit dans ta collection ou un de tes romans, est-ce que vous sentez une responsabilité particulière par rapport à Moorcock, au lecteur, au personnage ?
Non, moi ce que je voulais, c'était bien sûr qu'on fasse ça sérieusement et qu'on respecte le personnage, qu'on respecte le cycle et Michael Moorcock, bien sûr, mais je ne me sens pas d'obligation. Enfin, on le fait par plaisir, enfin, c'est une aventure avec et Fabrice et Mike, on le fait vraiment avec quasiment un plaisir. Enfin, je me souviens quand on a essayé de trouver le titre des Buveurs d'âmes, on déjeunait ensemble avec Fabrice et Mike et sa femme, et on a passé un déjeuner complètement ubuesque à donner des titres complètement débiles, et Mike était incapable d'être sérieux deux minutes, et moi j'étais là, mais excusez-moi, mais il me faut un titre là, les enfants, donc j'ai vraiment besoin d'un titre tout de suite. Et c'était on s'est bien amusé, donc c'était ça avant tout, de s'amuser et de enfin, c'était quand même pas tous les jours qu'on peut avoir un Elric en plus en français. C'est une sorte de bonbon, quoi. Enfin, voilà.
Et au départ, il avait commencé à dire ouais, on va en faire trois, machin. Là. Donc ça dépend de comment marche celui-là, quoi. Enfin, ça dépend plus du fleuve. Et, quoi, au niveau des disponibilités, moi je trouverais. Maintenant, il y a une amitié qui s'est instaurée. Donc, de toute façon, lui, il est 6 mois par an sur Paris. On ne va pas se perdre de vue. On ne va pas dire bon, au revoir, c'était sympa, etc. Ça, c'est sûr que non. Mais après, retravailler comme ça. Surtout que c'est quand même plus que le premier pas qui coûte. Et après, tu me dis, moi, je peux aussi y avoir plus confiance, etc. Parce que là, c'est vrai qu'au départ, tu as tout un. Il y a plein de barrières psychologiques à abattre. T'es quand même, enfin, moi, au début, je me disais putain, mais genre, il faut que je relise absolument tout, mais jamais. Enfin, tu vois. T'as tout un tas de trucs qui te passent par la tête, et maintenant ça c'est fini. Donc, et sur ce type d'aventure et avec ce mec là, sur ce que disait Bénédicte, c'est vraiment du plaisir, quoi. C'est, bon, après, il faut écrire le bouquin, tu fais les trucs sérieusement, mais c'est simple. Et en fait, c'est un mec qui donne une impression de simplicité tout le temps, alors qu'il est absolument pas. Enfin, il a une bibliographie super complexe, il y a des trucs très profonds. Mais là, tu te retrouves face à un mec de 70 ans qui dit « Écrivons une aventure avec un type avec une épée, quoi. »
Ça le fait marrer, ouais, ouais, ouais. Il est content, puis il est d'une générosité incroyable.
Aux États-Unis, les gens peuvent avoir la dent un peu plus dure. C'est-à-dire qu'il peut ressortir des fois des trucs de fantasy et les gens vont continuer à critiquer ça, tu vois, à l'aune de la production actuelle. « Mais pourquoi Moorcock qui refait ça ?» etc. Et il n'en a vraiment rien à carrer, quoi. C'est un mec qui s'en fout de la postérité, il s'en fout de. Il a quand même dit non à plein de studios aussi hollywoodiens, machin, sur Elric. Et puis à côté de ça, il va faire un truc avec un français comme ça, parce qu'il te dit ça m'amuse, j'ai envie. Donc il y a un côté grand gamin, voilà, que, que ça, et comme tu vois son rapport avec sa femme, de toute façon tu retrouves ça, t'as l'impression qu'elle c'est sa maman, et j'ai envie de, arrête un peu tes conneries et tout.
Et toi, tu serais prêt à laisser un de tes personnages comme ça à un autre auteur?
Ouais, mais j'ai pas de personnage suffisamment fort. Moi, j'écris pas vraiment des bouquins de personnages, donc de toute façon, ouais, mais moi, j'ai déjà écrit avec d'autres personnes. Ce qui est marrant, c'est quand on s'est rencontrés avec Mourgoq, on savait pas forcément ce que ça allait donner. Et même maintenant, même lui le dit quand il se voit à travers moi, enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais. On a pas mal de points communs. Il y a un éclectisme, un côté un peu touche-à-tout, et un côté, moi, bien sûr que les gens veuillent écrire la suite d'un bouquin que j'ai fait, ou ça, tout ça me pose aucun problème. On n'est pas immortel, etc. Je suis pas du tout crispé sur quoi que ce soit, donc je suis, de façon générale, on est très open, quoi.
Une dernière question, est-ce qu'une version anglaise, du coup, de cet Elric-là est possible?
J'espère qu'elle le sera. En l'occurrence, c'est l'agent de Mourcoq, George Hoffman, qui s'occupe des droits de langue anglaise. Donc, on verra.
C'était le plan, au départ.
Oui, c'est l'objectif. Ouais. Nous, là, on est en train de travailler sur avec tous ces éditeurs européens et japonais, etc. Mais on espère bien que ça verra le jour aux États-Unis et en Angleterre. J'espère. Oui.
Ok, eh ben nickel. Cool, parfait. Voilà.